franceinter.fr.
Alain Baraton va commencer avec vous parce que c'est un grand jour pour les jardins de Chambord.
Et oui, à 15h30, les nouveaux jardins de Chambord seront inaugurés par le président de la République en personne.
Alors c'est une création ou une restauration ?
Eh bien c'est surtout une belle aventure qui mérite d'être racontée, mais avant, petit rappel historique.
Alors on sait que c'est François Ier qui en a ordonné la construction.
Oui, en 1519 et c'est vraiment le plus beau et le plus grand château de tous les châteaux de la Loire. Chambord est un rendez-vous de chasse d'une beauté incroyable, mais il faut, ça je l'ignorais, il faut attendre le règne de Louis XIV pour que soient aménagés les abords du domaine, de la bâtisse, qui ne sont encore que des marécages. La première phase de travaux débute en 1684 et elle consiste à remblayer les terres aux abords du monument pour les protéger des crues du Cosson, une rivière qui sort parfois de son lit. Souvenez-vous, l'an dernier d'ailleurs, il était sorti justement de son lit et il avait causé beaucoup de dégâts.
Alors il y a eu des travaux donc, mais qui ont été rapidement stoppés ?
Eh oui, comme quand même à l'époque il y avait déjà des problèmes budgétaires. Ils vont reprendre ces travaux lorsque le roi de Pologne, Stanislas Leszczynski, séjourne à Chambord. En 1730, les travaux commencés sous Louis XIV reprennent. 4 années plus tard, un jardin à la française d'une surface de 65 000 mètres carrés est créé.
Il va exister pendant combien de temps ce jardin ?
Eh bien pendant près de 2 siècles, il va disparaître doucement mais sûrement dans l'entre-deux-guerres. Et c'est alors que trois hommes se passionnent pour le site et pour un projet. D'abord Jean Dossonville, il est le directeur général du domaine national de Chambord et c'est lui qui est à l'initiative du projet. Pendant près de 16 ans, eh bien il a encouragé les historiens à étudier les archives, les plans, les gravures. Des fouilles archéologiques sont menées et confirment très précisément les emplacements des parterres tels qu'indiqués sur les plans du 18e siècle.
Et alors en 2014, le président de la République en visite à Chambord a validé ce projet de restitution des jardins.
François Hollande aussi est séduit par ce projet. Ouais. Comment d'ailleurs ne pas être admiratif de Chambord quand on s'y trouve ? Et grâce au président de la République, tout va alors s'enchaîner très vite. La Commission nationale des monuments historiques en février 2015 valide officiellement le projet. Les travaux débutent en août 2016 sous l'autorité de Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques, assisté du paysagiste Thierry Jourdeuil. 5 mois plus tard, c'est incroyable, 5 mois plus tard seulement. Le résultat est saisissant. Il a été planté près de 600 arbres, 800 arbustes et 200 rosiers, 15 250 plantes, je suis précis, délimite les bordures. Il a été aussi semé ou plaqué 18 874 mètres carrés de pelouse.
Monnaie, hein, tout ça que ça coûte cher en fait.
Oui, mais comme dans toutes les belles histoires et dans les contes de fées, il y a un prince. Et ce prince s'appelle Stephen Schwarzman et il est américain. Cet homme aime la culture, il aime la France. Il va offrir 3,5 millions d'euros permettant ainsi à Chambord de retrouver son lustre d'antan. Et c'est vrai que je suis très, très, très satisfait, très heureux qu'aujourd'hui, bien le président la République inaugure ces jardins. Il sera accompagné de la ministre de l'écologie Ségolène Royal et de la ministre de la culture Audrey Azoulay. Quand les plus hautes autorités de l'État se manifestent pour les jardins, ça prouve bien que nous sommes dans une société où les choses vont encore très bien.
Non, j'ai pas forcément envie de leur faire de la pub, mais il se trouve qu'il y a un charmant petit hôtel en bordure du château qui est somptueux. Vous ouvrez vos fenêtres le matin et vous avez le château à vos pieds.
Mais la région est délicieuse et j'encourage tous ceux qui vont visiter Chambord d'arriver par la forêt. Vous arrivez par la forêt, soudain vous avez ce monument qui apparaît. Avec un petit peu de chance, vous avez croisé quelques chevreuils, quelques cerfs. Il y a une forêt extraordinaire et vous découvrez ce bâtiment. D'ailleurs, observez bien, Chambord est peut-être le seul château au monde qui ne ressemble à aucun autre château.
Ouais. C'est comme vous ne ressemblait à aucun autre jardinier. Alors nous avons reçu cette semaine une petite carte absolument charmante de René et Gilbert. On a reçu ça au bureau. Notre bordure, chers amis, nous disent-ils parce qu'ils écoutent beaucoup France Inter, notre bordure de petits buis prend un tour de plus en plus orangé, surtout côté soleil, depuis plusieurs mois. Que faire ?
Alors, il y a des problèmes avec les buis, comme vous le savez. Lorsque les buis se déteignent, lorsque la couleur devient rougeâtre, il y a plusieurs possibilités. Il peut s'agir effectivement d'un champignon Volutella, c'est pas bon signe. Il peut s'agir également des premiers symptômes d'une maladie qu'on appelle Cylindrocladium buxicola, c'est pas bon signe non plus, et je ne connais pas de traitement efficace. Il peut s'agir tout simplement d'un petit coup de froid, voyez-vous, parce que le buis parfois est un petit peu délicat, mais je pense surtout qu'il s'agit tout simplement simplement d'un excès d'arrosage, car les buis ont besoin de magnésium, et quand vous mettez trop d'eau dans la terre, cette eau ruisselle le magnésium, et la plante en manque. Donc je crois qu'il s'agit tout simplement d'un petit magnésium. Et puis je voudrais revenir sur une question que vous me posiez hier, parce que j'étais interpellé à ce sujet, concernant des arbustes à Versailles qui viendraient de Sierra Leone.
Ben oui, c'est un auditeur qui nous a envoyé un courriel en râlant et en disant « Mais monsieur Baraton, laisse faire ça ».
Voilà, je ne laisse rien faire du tout. J'étais quand même un petit peu interloqué, parce que la Sierra Leone, c'est quand même pas le pays d'origine, mais j'étais quand même perplexe. Il paraîtrait qu'il y a même des étiquettes qui l'attesteraient. Alors, j'ai quand même voulu vérifier de moi-même. Non, vous savez que quand vous transplantez des charmilles, les charmilles sont des végétaux qui doivent obligatoirement être transportés, transplantés avec de la terre autour des racines. On les plante en meute, jamais à racines nues. Ce sont des végétaux de grande hauteur. Donc, il y a une belle meute qui entoure la base. Il y a donc une toile de jute qui protège.
C'est la toile de jute.
Je vous confirme que la toile de jute est bien fabriquée en Sierra Leone.
Très bien. Bah, c'était bien de le dire. Voilà. Les jacinthes de Grégoire vont bientôt fleurir. Comment conserver les oignons pour les replanter l'an prochain?
La jacinthe est un bulbe, enfin une fleur qui se dégénère malheureusement trop vite. Et celles que l'on trouve dans le commerce sont tellement forcées qu'il est bien difficile d'espérer obtenir l'année suivante la même floraison. Par contre, il est vrai que les jeter, c'est un peu dommage. Ce que je conseille tout simplement, lorsqu'elles auront vraiment fleuri, c'est de trouver un petit coin du jardin et puis de les enterrer tout de suite après telles qu'elles. Elles refleuriront l'an prochain. Oh, ce ne sera pas extraordinaire. Mais d'année en année, elles vont devenir plus petite, plus discrète, les fleurs moins vives, mais il y a quand même du charme. Et j'aime bien l'idée que dans un jardin, on trouve des plantes qui soient en quelque sorte revenues à l'état sauvage, mais conserver les bulbes de jacinthe de manière à leur permettre l'année suivante de fleurir de la même manière, je ne connais pas de technique.
Que faire face à l'invasion de l'insecte chrysomèle qui dévore les sauges et le romarin, vous demande Christiane.
Ah, la chrysomèle, c'est quand même une bestiole qui est quand même terrible. C'est un petit insecte qui ressemble, pour faire simple, à un petit hanneton. Je schématise, mais qui serait beaucoup plus petit, qui a le dos métallisé avec des petites stries. C'est un très très bel insecte. Eh bien, il y a une chose toute bête et toute simple. Au lieu d'employer des produits le matin à la fraîche, la bestiole est encore un peu engourdie. Vous prenez tout simplement une toile, vous la mettez au pied du végétal et vous secouez le végétal. Eh bien, la bestiole va tomber dans la poche, elle ou les larves. Et vous pouvez ainsi, sans mettre de produits, les éliminer. Mais il faut quand même savoir que c'est quand même rare qu'il y ait prolifération de ces insectes. Il faut savoir que cette bestiole se nourrit généralement de lavande, de thym, de romarin, et que ce qu'elle consomme doit rendre, je pense, doit lui donner un goût infect pour les insectes. C'est pour ça que souvent, eh bien, elle prolifère, parce qu'il n'y a pas justement de prédateurs.
On a compris. Vous avez une idée de promenade, pour terminer?
Pendant tout le mois, il y a des manifestations magnifiques. Jardin infini de Giverny à l'Amazonie. C'est au centre Pompidou-Metz. Ça se passe à l'intérieur du centre. Ça se passe à l'extérieur du centre. Il y a des jardins à visiter à Metz. Il y a 300 œuvres de la fin du 19e siècle à nos jours. C'est vraiment l'occasion également de découvrir, toujours en relation avec le jardin, des installations contemporaines. C'est vraiment magnifique et ça dure jusqu'au 28 août.
Figurez-vous qu'il est déjà 7h50, Alain Baraton. C'est l'heure de donner la parole à Alain Bougrain-Dumont.